73 départements en alerte sécheresse au mois de juillet et pour certains même en état de crise. Alors même qu'une deuxième période de canicule est annoncée sur l'Hexagone, la situation est inédite. La France a connu des sécheresses, mais elles étaient ponctuelles. Or, on a l'impression depuis quelques années que le scénario se répète un peu plus fort encore à chaque nouvel épisode, avec à chaque fois les mêmes questions. Comment gérer l'urgence pour les éleveurs notamment, dont les bêtes pourraient manquer de fourrage à l'automne? Et comment, sur le long terme, mieux gérer nos ressources en eau? Construire de nouveaux barrages peut-être, baisser les prélèvements, économiser l'eau, sûrement, mais comment? Lutter contre l'artificialisation des sols, bien sûr, revoir nos manières de construire et nos pratiques agricoles aussi. Toutes mesures qui prendront du temps, mais a-t-on le temps? Dans l'état actuel des prévisions, les ressources en eau de surface auront baissé à la fin du siècle de 10 à 40%, de 30% dans les nappes souterraines. Pour en parler ce soir, nos invités, Marylis Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et Bernard Barraquet, directeur de recherche au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Sécheresse et restrictions d'eau, va-t-il falloir s'y habituer? C'est le téléphone sonne jusqu'à 20h. Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000.
Yves Decamp. Le téléphone sonne.
Le premier à nous appeler ce soir pour cette émission consacrée donc à la sécheresse, c'est Serge qui nous appelle de Bandol. Bonsoir à vous Serge.
Bonsoir France Inter et merci pour vos émissions qui sont super et très très intéressantes chaque fois. Oui, mais alors pour moi c'est pas une question que je pose, c'est presque un cri d'alarme parce que on se rend compte que l'homme a cru être plus fort que la Terre alors qu'il est moins fort que la Terre et puis la Terre est en train de nous repousser. Si on veut pas que la fin de l'humanité arrive, il faut absolument rapidement prendre des mesures. Alors c'est vrai qu'il y a plein de mesures au niveau de l'agriculture. Bon, je suis pas agriculteur, mais on sait que la culture de maïs demande beaucoup d'eau. Peut-être qu'il faut plus cultiver de maïs en France, faire autre chose. Et après, bon, au niveau des particuliers, il y a beaucoup de piscines dans ma région. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, vu qu'on a la mer à côté. Les piscines sont peut-être aussi de grosses mangeuses d'eau. Et puis, il faudrait peut-être limiter le nombre de piscines, limiter le nombre de golfs aussi, qui consomment beaucoup d'eau. Puis après, dans le quotidien, il faut ne pas laisser les robinets couler, prendre des douches plutôt que des bains. Et puis, je le dis toujours, et en plus, ça fait du bien pour les pieds, hein, de ne pas les faire pipi avant de prendre la douche. C'est très bon, ça empêche d'avoir des mycoses aux pieds.
Donc,
et faire pipi sous la douche à ce moment-là. Mais par contre, bon, je suis pas comme monsieur Cochet qui dit que dans 20 ans, ça sera tout foutu. Oui. Je pense que l'échéance est beaucoup plus, et sera plus longue. Je pense à la fin du siècle, mais il y a quand même urgence aujourd'hui à prendre des décisions.
Merci à vous Serge pour ce témoignage. On l'a compris, la première mesure, si j'ai bien compris, si je peux résumer ce que nous dit notre auditeur, c'est qu'il faut diminuer notre consommation. Bernard Barraquet, c'est la toute première mesure qui s'impose, et notamment dans l'agriculture.
Bien sûr, et de toute façon, il y a une phrase de choc et très générale à dire. L'eau la moins chère qu'on peut trouver, c'est celle qu'on n'a pas gaspillée.
Voilà, c'est ce qu'on dit aussi pour l'énergie.
Voilà. C'est valable, on peut le dire pour plusieurs domaines. Mais on peut constater alors que la consommation d'eau baisse dans tous les secteurs, sauf dans le secteur agricole où elle continue à augmenter. Et ça, c'est un peu un souci quand même, parce que elle augmente. Parce qu'on augmente les territoires où on voudrait faire de l'irrigation, ou bien les doses d'eau qu'on met sur les territoires déjà irrigués. Et donc là, c'est un souci. Et effectivement, je souscris tout à fait à ce que dit votre auditeur. Il y a des endroits où il va falloir probablement renoncer à faire du maïs. Si on ne... Parce que le maïs, c'est pas qu'il consomme beaucoup d'eau. Le maïs consomme moins d'eau que le blé à l'année. Sauf que le maïs, il a besoin d'eau en juillet, août, septembre, octobre, parce que moi je suis du sud-ouest, je vois bien qu'on ramasse le maïs en fin d'année.
Et surtout on l'arrose en plein après-midi souvent,
c'est extraordinaire. Évidemment, mais bon, même sans ça, si vous voulez, la quantité d'eau qu'il faut, elle est pas, malheureusement, pas au bon moment. Le problème, c'est que le maïs est une denrée qui est très utile, non pas tellement pour nous, hein, les humains, mais pour nourrir les bêtes.
Et d'ailleurs, que ça peut poser des problèmes à la rentrée, hein, d'où les mesures immédiates. Ça, ce sont des mesures immédiates annoncées par le ministre de l'Agriculture. Hein, avance de trésorerie de la PAC qui sera versée en octobre, soit un milliard d'euros pour les agriculteurs. L'autorisation de faucher les jachères, parce qu'on pense effectivement au fourrage qui risque de manquer à l'automne.
Oui, c'est vrai. Mais alors à partir de là, je pense qu'il faut surtout, ça c'était aussi dit par votre auditeur, c'était dit qu'il faut envisager des pratiques culturales qui seront moins asséchantes. Si vous regardez, vous allez sur Internet et vous regardez sécheresse, vous ouvrez un site, par exemple, n'importe quelle petite vidéo sur l'agroforesterie, vous allez voir tout ce que ça peut apporter de remplacer des grandes étendues de champs, très faciles à exploiter mécaniquement, mais qui, en période de sécheresse, vont être une vraie catastrophe pour la biodiversité du sol. Hein, et les remplacer par des cultures sous couvert végétal, le rétablissement de haies, enfin qu'on a un peu abandonné par rapport à l'agriculture traditionnelle. Donc voilà, il va falloir sans doute pour protéger l'eau et l'eau dans le sol, hein, l'eau verte, ce qu'on appelle l'eau verte, hein, pratiquer les cultures d'une agriculture différente.
Alors on va y revenir, on parle d'agriculture évidemment beaucoup, Serge parlait aussi des piscines, des golfs. Marie-Lise Massé, donc directrice générale du Centre d'information sur l'eau, c'est l'organisme, vous êtes l'organisme de référence, vous faites la pédagogie en quelque sorte, hein,
tout à fait,
de ce qui touche aux ressources en eau. Alors que faut-il dire, que faut-il savoir déjà?
Alors je crois déjà qu'il faut... redire qu'on n'est pas sans rien faire et que ça fait quand même quelques années qu'on essaie de trouver les solutions et qu'on les trouve. Pour preuve, sur l'eau potable, par exemple, on a économisé énormément d'eau. Les collectivités ont fait un gros travail depuis une dizaine d'années pour économiser l'eau.
Comment ?
L'eau potable, notamment en traitant les fuites. Il y a une dizaine d'années, pour l'eau potable, on prélevait à peu près 5 milliards de mètres cubes. Et on Pardon. Est 6 milliards et demi de mètres cubes.
Sur l'ensemble du pays.
Sur l'ensemble du
pour
pays.
Pour une année.
Tout à fait. On en est maintenant, 10 ans plus tard, à 5 milliards. Donc, on a fait une économie d'un milliard. Et pour faire ce genre d'économie, il faut vraiment avoir des solutions. Et c'est vrai que les fuites dans les réseaux, c'est quelque chose qui a été pris en compte et qui est de plus en plus travaillé pour que les canalisations soient en bon état et ne fuitent plus. Parce que le problème, c'est que cette eau, elle va réapparaître un jour. Elle n'est pas totalement perdue, sauf que on l'a traitée, on a donc dépensé de l'argent pour la traiter. Et voilà, il faut arriver à l'économiser là aussi.
Donc, premier exemple, on en verra évidemment beaucoup d'autres. Un autre auditeur qui nous appelle de Blois, c'est Gilbert. Bonsoir à vous, Gilbert.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Je voudrais déjà renvoyer vos auditeurs sur Internet et d'écouter le discours que tenait René Dumont en 1974 lorsqu'il était candidat à la présidentielle. C'était une époque où on traitait les écologistes de Cassandre, voire de rigolos, même dans les lycées agricoles où j'étais élève, alors qu'on avait des cours d'écologie déjà. Et puis ensuite, donc, est-ce qu'on pourrait pas indexer les cultures gourmandes en eau, dans le genre de maïs, aux réserves potentielles, puisque les réserves, maintenant, on est capable de les connaître, on sait qui attend, on met pas plus de maïs en surface. Aux agriculteurs, ensuite, de faire la ventilation. L'autre problème, c'est que l'eau, elle va tomber beaucoup en hiver et au printemps, on l'espère, et ensuite elle va sécher, c'est-à-dire les fréquences et les apports vont changer du fait que l'air donc chaud retient plus d'eau, mais il en relâche aussi beaucoup plus quand il refroidit. Et est-ce qu'on peut pas arriver à une gestion collective des eaux pluviales dans les communes, par exemple, pour les envoyer dans des puisards communaux qui permettraient, donc au sens qu'ils appartiennent à la commune, et qui permettraient donc les infiltrations qui n'ont plus le temps de se faire. Maintenant, l'eau, elle tombe à la verticale, et ensuite, elle file à l'horizontale dans les rivières, et on ne la voit plus avant qu'elle retombe un an après. Et puis ensuite, au niveau individuel, moi j'en suis arrivé à mettre un troisième évier dans ma cuisine, dans lequel je récupère toutes les eaux qui ne contiennent pas de détergent. Et je vous garantis que ça ça fait des volumes. Alors pour l'instant, je l'envoie dans mon ancienne fosse qui récupérait toutes les eaux avant qu'on nous oblige à mettre tout à l'égout. Mm-hmm. Donc ça profite à mon gazon et aux arbres qui sont autour. C'est pas perdu, ça permet son infiltration. Et dans très peu de temps, je vais remettre une cuve. Par contre aussi, quand on voit le prix des cuves pour retenir l'eau, ça aussi, il pourrait être fait des efforts parce que ça coûte pas si cher que ça.
Ok.
Et ça devrait être prévu. Dans toutes les zones pavillonnaires, on devrait prévoir le stockage de l'eau de pluie qui va manquer ensuite à l'été.
Bon, tout plein d'idées, Gilbert de Blois. On revient au maïs, là. Indexer la culture du maïs aux réserves en eau.
Oui, je pense que c'est pas. Et on peut compléter la suggestion de l'auditeur qui est très intéressante en disant que lorsqu'il y a une répétition de sécheresse à un endroit donné, le préfet peut constituer ce qu'on appelle une zone de répartition de l'eau, hein, une ZRE. Voilà. La zone de répartition de l'eau, ça veut dire que tout préleveur d'eau doit déclarer ce qu'il prélève à partir de la première goutte, en gros. Alors que sinon, on n'avait rien à déclarer tant qu'on prenait moins de 8 mètres cubes par heure et rien n'est pas demandé d'autorisation à moins de 80 mètres cubes par heure, ce qui est très généreux. À partir d'une ZRE, donc, on va devoir déclarer au préfet. Et le préfet, du coup, va pouvoir, enfin, ses services vont pouvoir phaser, dire à qui on coupe l'eau en premier quand on n'a plus assez. C'est les usages les moins importants, si vous voulez, qu'on va couper. Et alors, ça doit se répartir, effectivement, entre les différentes catégories d'usagers. Mais en ce qui concerne les agriculteurs, le préfet va en plus mettre en place ce qu'on appelle un organisme unique de prélèvement de la ressource en eau des agriculteurs. Tous les agriculteurs du même coin vont avoir un quota d'eau et ils vont devoir se le répartir. Et à partir de là, on peut imaginer, avec un certain apprentissage, que les agriculteurs pourront décider entre eux lequel va faire du maïs, parce qu'ils pourront éventuellement continuer à en faire une partie.
Mais ça, c'est une suggestion ou ça c'est prévu, ça se met en place?
Je pense que ça se fera déjà, ça commence déjà à se faire, mais ça va se faire de plus en plus si les agriculteurs arrivent dans les régions où ils arrivent à coopérer entre voisins. Et ce n'est pas le cas partout. Il y a des cas où les agriculteurs sont très individualistes et ils ne voudront pas.
Alors Marie-Lys Massé, Gilbert nous parlait aussi de la récupération des eaux pluviales, d'une part, des eaux usées, d'autre part, là aussi il y a un gisement, si j'ose dire.
Il y a un gisement, oui, surtout sur toutes ces eaux-là. Et d'ailleurs, les assises de l'eau ont bien redit que pour les bâtiments neufs, il allait falloir prendre justement des mesures, avoir des exigences écologiques pour justement économiser et l'eau potable et les eaux usées et les eaux pluviales et pouvoir réutiliser. D'ailleurs, la réutilisation des eaux usées, c'est un vrai gisement, ça. C'est quelque chose qui peut vraiment être une alternative à l'utilisation de la ressource.
On peut imaginer des aides publiques pour les cuves dont parlait Gilbert.
Pour les particuliers, effectivement, je ne sais plus si c'est dans toutes les agences, mais à un moment, il y avait d'abord une économie d'impôt quand on installait ce genre de choses, et ensuite certaines agences de l'eau le mettaient à leur programme pour pouvoir aider les gens à avoir cette réutilisation des eaux de pluie. Alors, il faut y faire très attention parce qu'il faut bien savoir que les eaux de pluie ne sont pas sécurisées. Ça peut être un risque pour la santé. Donc, on ne mélange pas eau de pluie avec des usages pour l'hygiène, par exemple, ou pour la boisson, mais c'est des choses que l'on peut faire. Beaucoup hésitent encore à le faire parce que, comme l'a dit monsieur, avant de rentabiliser cette fameuse cuve, ça peut mettre quelques dizaines d'années. Donc, il y a une hésitation qui se fait encore.
Bernard Baraquet.
Mais moi, ce que je préconise, effectivement, c'est qu'on ne fasse pas ça chacun dans son coin. Les agences de l'eau, de toute façon, c'est très difficile pour elles d'aider des particuliers. Elles sont pas à cette échelle. Il y en a 6 pour tout le territoire, vous pensez bien. Par contre, les agences de l'eau seront tout à fait prêtes à aider.
Elles aident les collectivités.
Voilà, une collectivité locale qui va faire un plan et qui, dans ce plan, va proposer un certain nombre de mesures, dont, d'ailleurs, la désimperméabilisation des sols pour permettre à l'eau de pluie de se réinfiltrer dans les sols. C'est la première chose qu'on peut faire. De la verdure en ville pour diminuer la température, un peu, et pour pouvoir réinfiltrer l'eau. Et bien sûr, après, récupérer l'eau de pluie. Alors, dans une étude économique qu'on avait fait sur le cas de Bordeaux, grâce au syndicat mixte qui s'occupe de la Gironde, on avait fait avec eux une étude assez intéressante, où on montrait que c'est vraiment intéressant de récupérer l'eau de pluie sur le toit du stade, sur le parking de la grande surface, etc. Par contre, à l'échelle du pavillon, il y a le problème de la taille de la cuve. Si elle est grande, on la rentabilisera pas. Si elle est petite, on n'aura plus d'eau très vite. Et donc, quand on aura la sécheresse, on ne pourra pas s'en servir.
Là, vous parliez des sols. C'est un mail de Didier qui nous dit peut-être qu'ils ont bétonné moins les sols chez les particuliers, les centres commerciaux, etc. Les pluies pénétreraient mieux et rejoindraient les nappes phréatiques plus facilement, évidemment. Cindy qui nous dit ne faudrait-il pas fermer les stations de lavage auto? On n'a pas besoin d'une voiture propre. Hein. On a plus besoin de nourriture dans nos assiettes qu'une voiture qui brille sur le parking. Donc plein de petites choses.
Je peux faire une pub?
Allez-y.
Il existe maintenant des technologies, au moins j'en connais moi une, qui a été primée par les agences de l'eau de la Seine et puis du Rhône. C'est une technologie qui permet de recycler les eaux de lavage des voitures de telle façon qu'elles ne se contaminent pas avec des organismes pathogènes. Le problème, vous pouvez recycler l'eau de lavage des voitures, mais à force de la faire tourner, cette eau, elle devient sale, quoi. Et elle devient, comme il y a des projections, relativement dangereuse pour la santé. Et il y a maintenant des techniques pour traiter cette eau après utilisation pour lavage des voitures, ce qui fait qu'on peut continuer à s'en servir, bien qu'il n'y ait plus d'eau dans la nature, puisqu'on l'a fait tourner.
Nouvel auditeur qui nous appelle de la Meuse, je crois, c'est Patrice. Vous êtes avec nous, Patrice ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, nous vous écoutons.
Eh bien, la baisse de plus en plus prononcée des cours d'eau ne risque-t-elle pas de poser de graves problèmes de sécurité concernant certaines industries sensibles, et je pense en particulier pour les centrales nucléaires? Je veux dire qu'on peut en douter, parce que vous prenez l'exemple d'une entreprise qui envisage de s'installer long de la Marne, en amont de Saint-Dizier, avec une permission de rejeter des éléments radioactifs dans cette rivière, et en s'appuyant sur des données climatiques biaisées et totalement fausses. On ne peut qu'être effrayé. Vous vous rendez compte qu'elle s'appuie sur les étiages du cours d'eau à partir de données s'étalant sur 5 ans, alors que sur 10 ans, la courbe de baisse d'étiage est beaucoup plus alarmante. Et de surcroît, elle annonce que les vents dominants viennent de l'Est, alors que tout le monde sait ici qu'ils viennent à 80% de l'Ouest. C'est complètement sidérant. Donc en termes de climatologie, d'hydrographie, il serait bon, si vous me permettez ce jeu de mots, que les entreprises sensibles reconsidèrent leurs sources.
Oui, bravo. Merci à vous, Patrice. On a un petit peu le même genre de question avec Marc par mail qui nous demande ce qui va se passer pour le refroidissement des centrales nucléaires avec cette sécheresse. Je rappelle que EDF annonce l'arrêt des deux réacteurs de Golfech dans le Tarn-et-Garonne en raison non pas de la sécheresse, mais des températures
la Garonne. C'est ce que j'allais dire. Les auditeurs ont raison de s'inquiéter sur les quantités d'eau, mais il faut dire que beaucoup de centrales nucléaire utilise des aéro-réfrigérants, ce qui fait qu'ils consomment de l'eau, mais c'est le problème, si vous voulez, c'est surtout que l'eau, une fois rejetée, est réchauffée. Et je me souviens que EDF avait demandé précisément au comité de bassin de Rhône-Méditerranée s'il pourrait avoir, en cas de sécheresse, l'autorisation d'augmenter la température des fleuves d'un ou deux degrés par rapport à la règle qu'on leur avait fixée avant. Et le conseil scientifique a étudié la question et a répondu non. Parce que ce serait trop dangereux pour la biodiversité et notamment pour les poissons qui ont besoin d'eau froide, les poissons migrateurs qui ont besoin d'eau froide.
Alors on parle des cours d'eau, Marie-Lise Massé, vous disiez on a déjà fait beaucoup, les agences de l'eau ont déjà fait beaucoup, effectivement. Hein, j'ai vu que 25 000 km de cours d'eau ont été restaurés en 5 ans par les agences de l'eau et que 94 000 hectares de zones humides, pareillement, ont été préservés ou restaurés. Et c'est pas fini.
Et les zones humides, c'est quelque chose qu'il faut reconquérir absolument, hein, parce que c'est des réserves d'eau possibles, ça purifie aussi l'eau de manière naturelle. Donc là, il y a tout un travail à faire. Mais c'est un travail général de désimperméabilisation, d'ailleurs, de nos sols, de tout. Hein. L'urbanisme doit de plus en plus prendre en compte aussi la déminéralisation dans les villes. Il va falloir réintroduire absolument la nature dans les villes, pour pouvoir y vivre plus facilement, pour permettre l'infiltration des eaux et la conservation aussi de ces eaux.
Alors, je crois qu'un milliard par an a été budgété d'ici 2024, justement, pour soutenir les collectivités locales, préserver les rivières, les zones humides, etc.
Attendez, là, on va faire le point sur le bilan, le financement des agences de l'eau. Les agences de l'eau, ensemble, ont un budget à peu près 2 milliards d'euros par an, d'accord ? Alors, elle fonctionne normalement sur pas de 6 ans. Donc en fait, on vote avec des possibles de révision, malheureusement, qui sont parfois exigées par Bercy au nom de certaines austérités budgétaires qui sont très ennuyeuses pour les agences, puisque souvent, c'est des programmes qui s'étalent sur plusieurs années, ce qu'elles font. Elles financent des infrastructures d'une certaine longueur de temps, voilà. Mais 2 milliards par an, et alors le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout faire. Et plus on prend de l'argent des agences pour financer la biodiversité, la reconquête de la nature, l'application de la directive cadre sur l'eau européenne, moins il en reste pour améliorer et fiabiliser encore plus nos services publics d'eau et d'assainissement. Voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a eu les assises de l'eau en juillet, parce que au moment où le gouvernement disait faut mettre plus d'argent sur la protection de la nature, la biodiversité, etc., les élus locaux, en particulier des communes rurales, ont dit mais alors vous nous abandonnez, on va pas pouvoir lutter contre les fuites, vous voyez, par exemple. Alors du coup, on a remis le bébé sur la table. Mais moi, je ne suis personnellement pas tout à fait satisfait du résultat des assises de l'eau, parce que on n'arrivera pas, malheureusement, pour le moment, à infléchir l'austérité imposée par Bercy sur le budget des agences de l'eau. Alors, je vous rappelle quand même que les agences de l'eau ne font rien par elles-mêmes. Elles n'ont pas le droit de gérer.
Elles subventionnent, oui.
Elles subventionnent. C'est comme des mutuelles, si vous voulez.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Nous parlons ce soir au téléphone sonne de la sécheresse et de la meilleure façon de gérer nos ressources en eau avec un nouvel auditeur, c'est Lucien. Bonsoir Lucien, vous êtes à Paris.
Oui, tout à fait, bonsoir et merci de la qualité de vos émissions.
Merci.
J'avais une question en deux parties, on va dire. Sait-on aujourd'hui estimer la quantité de litres d'eau nécessaire à la production d'un kilo de bœuf, d'un kilo de poulet, de porc, bref, de viande en général? Et deuxièmement, est-ce que c'est une donnée qui peut être communicable de façon suffisamment simple pour que le consommateur moyen tel que moi-même puisse se représenter un peu cela?
Marie-Lise Massé fait oui de la tête.
Oui, bien sûr, ça existe. C'est ce qu'on en prête, c'est ce qu'on appelle l'empreinte bleue, hein, puisque tout ce qui est produit consomme de l'eau. Alors, je vais faire un peu de pub pour le Centre d'information sur l'eau, mais nous avons fait justement toute la grille qu'on peut trouver sur notre site pour voir justement ce que chaque produit ou presque chaque produit consomme. Et là, il y a le consommateur peut aussi jouer pour avoir une sobriété dans son alimentation, parce que il y a des produits qui utilisent beaucoup plus d'eau que d'autres.
Par exemple.
Et donc, par exemple, du bœuf, pour manger un steak, il y a, je crois que c'est à peu près 1000 litres d'eau pour un kilo de steak.
Oui, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, au maïs.
Ou c'est même plus que ça.
Un kilo de blé, 1000 litres.
Voilà.
Un kilo de blé, 1000 litres. Ce qui, cela dit, n'oubliez pas que d'habitude, s'il n'y a pas la sécheresse, cette eau est apportée naturellement par la pluie, hein. Donc il y a pas, on ne va pas l'amener. Par contre, si vous voulez faire pousser du blé en Arabie Saoudite, vous êtes mal parce qu'il faut amener 1000 litres. D'accord? Par contre, le blé, il va servir, ou les céréales vont servir à nourrir l'animal. Alors, c'est sûr que le poulet a besoin de beaucoup moins d'eau au total pour pousser. Le mouton, encore plus, le porc un peu plus, et le bœuf encore plus. Et je crois que pour le bœuf, c'est 14 000 litres d'eau pour un kilo de bœuf. Donc vous voyez que là, effectivement, modifier les régimes alimentaires sera quelque chose d'assez indispensable à long terme.
Alors parmi les mesures suggérées aux dernières assises de l'eau, il y avait aussi la baisse des prélèvements. Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'on pourrait réserver les prélèvements d'eau aux simples besoins vitaux des hommes et des animaux? C'est envisageable?
Alors en tout cas, ce qui est tout à fait envisageable parce que la technologie le permet, c'est la réutilisation des eaux usées à partir du moment où on les a assainies, hein, pour qu'il n'y ait plus de problèmes de sécurité sanitaire. Et ça, c'est vraiment une piste très intéressante. Et la France, là,
est très en retard.
Parce que pour vous donner un chiffre, en France, par jour, on réutilise 19 000 mètres cubes par jour d'eau usée, alors qu'il y a d'autres pays qui en sont à 800 000 mètres cubes, par exemple. exemple en Italie. Donc là, il y a vraiment un gisement. Il faut travailler là-dessus. La technologie actuellement de nos entreprises permet de réutiliser ces eaux usées.
Ça peut se faire qu'à l'échelle d'une collectivité locale, bien sûr.
Mais c'est là où on aura un vrai gisement d'économie et de sobriété dans les usages. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là.
Alors autre point particulier, la création de stockage d'eau, parce que sur les barrages, les avis sont très partagés. Faut-il construire de nouveaux barrages ? D'abord, le peut-on, puisqu'on est carrément au maximum en ce qui concerne l'hydraulique en France, Bernard Barraquet ?
On n'est pas très en retard, non, on a fait, on a fait beaucoup de barrages, on a fait les barrages qu'il fallait faire.
Voilà, mais peut-on encore en construire ?
Non, à mon avis, alors là je suis très clair, il faut arrêter. Ou du moins, il faut soumettre la construction de nouvelles retenues à une évaluation économique pour savoir si ça vaut le coup. N'est-ce pas ? J'ai entendu dire, du côté de la FNSEA, bien évidemment, que parce qu'on n'avait pas fait assez de barrages, on était obligé d'importer du foin d'Espagne où on en a fait plein. Mais ça, c'est quand même dramatique de dire une chose pareille. Parce qu'en Espagne, précisément, il n'y a plus d'eau. L'Espagne, le sud de l'Espagne, est en pleine désertification. Allez sur Internet, regardez ce qui se passe.
Alors c'est paradoxal.
Mais il n'y a plus d'eau. Donc les barrages espagnols, ils sont à la queue leu-leu sur des rivières. On ne peut plus les remplir. Si on en remplit un, on ne remplit pas les autres. Vous comprenez ? Donc, ce n'était pas la peine de les construire.
C'est une fausse bonne solution.
Alors. Et donc, nous, en France, on doit faire très attention à ne construire que les retenues qu'on aura la possibilité de construire. Le problème, c'est que nos outils économiques et techniques pour mesurer tout ça ne sont pas encore très au point. Et d'ailleurs, mon conseil scientifique de l'Agence de l'eau du Rhône est en train de préparer un rapport sur cette question pour dire est-ce qu'on valide, est-ce qu'on valide pas et comment les nouvelles retenues de substitution. Mais je suis très sérieux, aller dans les Deux-Sèvres ou en Vendée, là il commence à y avoir une véritable concurrence entre les réserves d'eau dont on a besoin pour faire de l'eau potable et l'eau pour l'agriculture. Et là, effectivement, pour moi, il n'y a pas photo. La valeur de l'eau pour l'eau potable, sur le plan sanitaire et sur le plan économique, n'a rien à voir avec la valeur de l'eau pour l'agriculture. Donc il faut savoir faire des priorités.
Alors, vos propos sur les barrages font réagir. Isabelle, je crois, n'est pas d'accord. Bonsoir Isabelle, vous nous appelez de Amber.
Oui, c'est ça. Je vous appelle parce qu'en fait... Le Massif Central était considéré comme le château d'eau de la France. Or, le Massif Central est en train de s'assécher. Côté Puy-de-Dôme, on a de moins en moins d'eau. On a quand même plein de petits ruisseaux, de petites vallées qui ne sont plus habitées, qui ne sont plus cultivées, envahies par des sapins en général qui ont acidifié les cours d'eau. Et je ne comprends pas qu'on ne demande pas des barrages extraordinaires comme celui d'Embrun, par exemple, mais il pourrait y avoir des petites retenues qui permettraient de réguler en période estivale, le flux des cours d'eau. Ça me semble logique et ça permettrait, pour ce qui est du Puy-de-Dôme, peut-être pas d'irriguer parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de cultures, mais ça permettrait au moins de ne pas voir les cours d'eau s'assécher et de pouvoir éventuellement desservir des agriculteurs pour faire boire les bêtes ou je sais pas. Nous, on a une chance formidable dans notre village, on a une fontaine, il y a très peu de villages qui ont des fontaines. Et on voit la course à l'eau pour les bêtes l'été, c'est quelque chose d'incroyable. Donc comment fait-on pour conserver l'eau d'hiver qui part tout droit à la mer, hein, qui ne s'infiltrera pas de toute façon, puisqu'elle est dans un cours d'eau. Donc moi, je comprends pas. Pour moi, c'est aberrant de pas faire des petites retenues partout où il y en a la possibilité. Une fois qu'on a fait la retenue après l'eau, quand la retenue est pleine, l'eau, elle s'écoule. Et puis dans les retenues, ben je peux vous dire qu'il y a des poissons autour, il y a la faune, la flore qui se développe. C'est quand même hallucinant. Le Maroc, qui est suffisamment asséché sur l'anti-Atlas, a construit ces dernières années tout un tas de barrages qui permettent de l'irrigation quand même.
Alors, merci Isabelle pour votre témoignage, Bernard Barraquet. Vos explications sur les retenues d'eau n'ont pas bien été comprises.
Oui, mais je pense qu'on ne sera pas d'accord avec cette dame, c'est tout. Je veux dire, les retenues d'eau ont de gros inconvénients pour la biodiversité et elles sont aussi une source d'évaporation de l'eau et avec la sécheresse et la canicule, ça va pas s'arranger. Donc, et qu'un cours d'eau s'écoule jusqu'à la mer, mais quel est le problème ? C'est la nature et les poissons qui sont dedans, ils existent. Je veux dire, pourquoi dire ça ? Le fait que, par exemple, on retienne l'eau, par exemple, prenez la Charente, On retient tellement bien l'eau que il arrive plus assez d'eau douce pour alimenter les parcs à huîtres. Bon, ça c'est, il faut, le problème c'est qu'il faut réguler les apports d'eau entre les saisons et de l'amont à l'aval. À partir de là, il faut discuter. A priori, je n'ai rien contre le fait qu'on fasse quelques retenues de substitution en plus. Par contre, les faire très loin de là où on utilise l'eau, ça, ça sert à rien, parce qu'après, il faut la transporter. Et je vous rappelle quand même, au cas où vous le sauriez pas, chers auditeurs, que un mètre cube d'eau, ça pèse une tonne. Donc, c'est lourd à transporter.
Marie-Lise Massé, est-ce que le mieux, finalement, et là, tout le monde sera d'accord, ce n'est pas de privilégier l'eau souterraine, c'est-à-dire l'infiltration des sols et la recherche des nappes phréatiques. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, je crois que c'est plutôt Bernard qui peut répondre. L'état des lieux sur les nappes phréatiques. Mais je pense que actuellement elles sont un peu atteintes, donc il va falloir faire attention, réapprovisionner, avoir la chance d'avoir des pluies en septembre, de septembre à avril prochain, qui rechargent ces nappes. Et puis en attendant, c'est pas économiser l'eau vraiment, c'est avoir une utilisation sobre pour tous les usages. Et je pense qu'il y a peut-être pas un usage meilleur qu'un autre. Il faut simplement que chacun soit solidaire dans ses usages et fasse attention à l'eau.
Mais pour regagner de la qualité dans les sols, il faut lutter en priorité contre l'artificialisation des sols. Là-dessus, oui, on est bien d'accord.
Ça, c'est ce que tout le monde dit, effectivement. Il faut de moins en moins artificialiser. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'urbanisme, mais c'est aussi dans l'agriculture. C'est redonner aussi un sol qui est un bon substrat pour pouvoir absorber et que l'eau arrête de ruisseler sur ces sols qui sont devenus pauvres. Et
comment fait-on, Bernard Baraquet?
Pour le coup, il faut quand même... un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'avec l'amélioration du machinisme agricole, on a des tracteurs qui sont très très lourds et qui tassent les sols. Un sol tassé, il n'y a plus de vers de terre. Le vers de terre, c'est la vie du sol. Donc il faut absolument, bon, tout le monde le sait, hein, aujourd'hui, vous avez des agriculteurs maintenant qui font très attention et qui comptent leurs vers de terre. Hein. Ils prennent une pelletée de terre, ils regardent. Et en fonction de ce qu'ils voient...
On a trop compacté les sols et l'eau s'infiltre moins bien.
Et voilà. Mmh. Et donc, c'est aussi une réponse à la dame qui parlait tout à l'heure et qui rêve qu'une plus une seule goutte d'eau n'arrive à la mer. Je réponds, oui, mais la meilleure façon de stocker l'eau, c'est de la stocker dans les nappes. Parce que là, elle reste au frais, elle est filtrée... Et elle ne s'évapore pas. Donc c'est ça qu'il faut faire, là où on peut, bien évidemment. Et là, dans les villes, c'est pareil, on peut le faire aussi, n'est-ce pas? Et donc il y avait un monsieur tout à l'heure qui disait que lui, il essayait de réinfiltrer l'eau de pluie qu'il avait récupérée, même l'eau de son première utilisation à l'évier de la cuisine, etc. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais je vous rappelle quand même que si les nappes sont en danger aujourd'hui, figurez-vous que c'est parce que l'hiver 2016-2017 a été extrêmement sec. Et du coup, les nappes ne se sont pas rechargées à cette époque et on n'arrive pas à rattraper. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la problématique des nappes souterraines est une problématique interannuelle, contrairement à la problématique des rivières, qui est une problématique annuelle, si vous voulez. Et le interannuel est extrêmement important puisque tout le monde parle de ça, de la gestion conjointe eau de surface, eau souterraine, précisément à cause de cette différence de temporalité des deux types d'eau.
Est-ce qu'il y a des nappes souterraines à découvrir encore? Ou est-ce qu'on connaît tout, Marie-Lise Massé?
Eh bien là, vous me posez une colle, franchement.
Non. En France, on a quand même le bureau de recherche géologique et minière qui connaît très très bien ce qu'on a, que ce soit...
Il n'y a pas de ressources cachées, donc?
Non, il n'y en a pas. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des ressources qui sont si profondes qu'on ne va pas les chercher parce que c'est trop cher.
Quelques témoignages arrivés par mail. Catherine qui dit « Je récupère systématiquement l'eau de lavage des fruits et légumes pour arroser mes plantes ou laver le sol. Si chacun faisait ça, il y aurait peut-être moins de problèmes. » Claire qui nous dit « Il faut changer nos habitudes. Pourquoi ne pas récupérer l'eau de la douche pour les toilettes par des pompes ou l'eau de cuisson pour arroser les plantes ?» Julia qui nous dit « On parle beaucoup de la consommation d'eau en agriculture. Ne faut-il pas aussi songer à l'eau qui est utilisée pour fabriquer de la neige artificielle dans les stations de ski, bien entendu, hein, pour contenter au final une partie minime de la population, évidemment, les stations de ski, les piscines, les golfs, là aussi il y a beaucoup de choses à faire sans doute.
Il y a encore pas mal de choses à faire, mais les golfs, justement, on arrive maintenant à réutiliser des eaux usées, comme pour le nettoyage des voiries. Hein. Donc, petit à petit, tout ça, ça se met en place. Pour les économies chez les particuliers, je pense quand même que c'est le contrôle et la chasse aux fuites chez soi qui est la plus utile. Je vous donne un exemple. Une chasse d'eau qui fuit goutte à goutte, vous avez l'impression que c'est rien. Sauf que à la fin de votre journée, c'est 150 litres qui sont passés. Donc, ça veut dire que ça fait des dizaines de mètres cubes en un an. Voilà, ça, j'y crois beaucoup. Les fuites, aussi bien pour le service public, hein, canalisation du service public, mais également chez soi, les fuites, c'est quelque chose qui permettra une économie d'eau.
Sachant que la dépense en France, c'est 145 litres d'eau potable par jour et par Français, quelque chose comme ça.
Et par personne. Alors ça varie. Hein. Il y a des endroits où c'est plus, d'autres où c'est moins.
Je peux te donner le chiffre. On est à 100 dans le Nord, mais à plus de 200 sur la Côte d'Azur.
200 litres d'eau potable par jour.
Oui, par personne. Pourquoi ? Parce que sur la Côte d'Azur, les gens ont des piscines, par exemple. Où ils consomment plus d'eau parce qu'ils prennent plus de douches. Alors que dans le Nord et en Belgique, les gens ne sont pas sales, mais ils utilisent finalement très peu d'eau. Ils sont très économes.
Sachant que 38% de l'eau potable est puisée dans les eaux de surface, les rivières et les lacs.
Oui, et la plupart du temps, c'est puisé dans les nappes souterraines, ce qui donne d'ailleurs une eau de bonne qualité, qui n'a pas besoin de trop de traitement pour être potabilisée.
Nouvel auditeur ou auditrice qui nous appelle de Nantes, c'est Cécile. Bonsoir à vous, Cécile.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Merci. Moi, je me posais la question des usines de désalinisation d'eau, puisqu'on dit que l'eau des océans va monter, le niveau des océans va monter. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être utiliser cette eau-là aussi pour l'agriculture, pour les piscines, pour
Ben voilà, question simple et précise, merci. Le dessalement de l'eau de mer, qui veut répondre ?
Ça se fait déjà dans beaucoup de pays. En Arabie Saoudite, évidemment, en Australie, en Israël, en Espagne.
Et pourquoi pas en France ?
Mais parce qu'on est un pays tempéré jusqu'à maintenant, on n'a pas eu besoin de le faire. Ça. Il faut que vous compreniez quand même que dessaler l'eau de mer, ça coûte très cher. C'est une eau qui coûte cher. Alors certes, avec les progrès techniques, on va dire on peut arriver à faire de l'eau de mer dessalée à un coût de 60 centimes d'euros le mètre cube, à peu près. Mais c'est quand même deux fois plus que l'eau qu'on trouve dans la nature. Même si, en plus après, il faut, l'eau de la nature en comptant le coût du traitement, n'est-ce pas ? Donc c'est beaucoup plus cher. Alors, par rapport à un coût total de l'eau, ça peut valoir le coup. Surtout que l'usine de dessalement, elle a l'avantage qu'on ne la met en service que le jour où on manque vraiment d'eau. Pour le reste de l'année, on la laisse tranquille. Et donc, on ne consomme pas d'énergie, n'est-ce pas ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout un apprentissage. Je veux dire, la leçon numéro un de la sécheresse, c'est qu'on est une ville, grande ville, Barcelone, est obligée d'amener de l'eau par tanker. Une eau horriblement chère et d'une qualité catastrophique, parce qu'elle a séjourné dans le tanker plusieurs jours. Alors du coup, ils disent, on va dessaler l'eau de mer. Ils font une usine de dessalement de l'eau de mer, qui marche très bien. Sauf que, 6 mois après, la même entreprise qui distribue l'eau à Barcelone et qui a fait cette usine, utilise la même technologie pour traiter les eaux usées qui sortent de la station d'épuration et ça coûte beaucoup moins cher parce que c'est moins pollué que l'eau de mer qui est contaminée par du sel, par plein de choses, n'est-ce pas ? Donc ça vaut le coup et donc c'est comme ça qu'on apprend à réutiliser les eaux usées en passant par le dessalement de l'eau de mer. Mais allez en vacances dans les îles grecques, vous avez j'ai été invité par des amis de l'université d'Athènes à voir des petites unités de dessalement qui tiennent sur un camion. Quand il y a les touristes, on met ça. Et puis, du coup, on peut apporter de l'eau aux touristes. Voilà. Et puis, quand c'est fini, on rembarque les camions, on range le matériel.
Alors est-ce, puisqu'on parle de gros sous, de financement, est-ce qu'il faut appliquer à la gestion des ressources en eau le principe du pollueur-payeur, comme beaucoup d'associations le demandent, en visant, encore une fois, bien sûr, principalement les agriculteurs qui abusent?
Mais là, en l'occurrence, monsieur, ce dont nous parlons, c'est du principe préleveur-payeur. Pollueur-payeur, ça correspond à toute la politique de l'eau qui a été construite à l'échelle européenne au début, dans les années 60, 70, 80, 90, où la préoccupation majeure des Européens, c'était la pollution, la qualité de l'eau qui était dégradée par les industries, etc. On a fait beaucoup d'efforts là-dessus. Et seuls les pays qui étaient concernés par les problèmes de pénurie d'eau en quantité, hein, c'était les pays méditerranéens. Aujourd'hui, de plus en plus de pays, j'ai même découvert qu'aux Pays-Bas, il y a des problèmes de sécheresse graves et qui ont des impacts sur l'agriculture.
Le preneur-payeur, c'est déjà le cas.
Ben, en France, normalement, oui, puisque vous avez deux, il y avait historiquement deux redevances pour les agences de l'eau, une sur les rejets de polluants, l'autre sur les prélèvements d'eau, qui était d'ailleurs beaucoup moins élevé. Ça, cette redevance, elle pourrait augmenter. Ce qu'il y a, c'est que on n'a jamais pu appliquer cette redevance là où elle coûte, au prix où elle coûte aux agriculteurs, parce que sinon, ils feraient tous faillite. Donc, on les a relativement protégés. Mais aujourd'hui, on doit imaginer des projets de territoire où on s'organise entre les différents types d'usagers, y compris les agriculteurs, pour se repartager l'eau et partager aussi les financements.
Un tout dernier témoignage, Antoine, qui nous appelle de Vendée. Je vais vous demander d'être très très rapide, Antoine.
Oui, c'était moi un moyen de protéger la ressource en eau en quantité et en qualité. C'est d'utiliser des toilettes sèches. C'est un moyen très simple, au moins à la campagne, et qui préserve, à mon avis, vraiment la qualité de l'eau et qui est pas très, qui est onéreux à installer. Voilà mon témoignage.
Merci beaucoup, beaucoup de témoignages en ce sens. Il y a beaucoup d'économies à faire autour des toilettes, oui, des douches.
Il y a un doctorant à l'école des ponts qui travaille précisément à mettre en place des toilettes sèches. Et donc à l'école nationale des ponts et chaussées à Marne-la-Vallée, il y a des toilettes sèches qu'on expérimente. Et le syndicat d'assainissement de l'Île-de-France soutient actuellement l'installation de toilettes sèches dans des endroits publics, dans des lieux publics à Paris. Donc pourquoi pas?
Et ça fait vraiment de belles économies?
Ah ben oui, on va dire entre 25 et 40 litres par chasse d'eau, voilà. Quand elles sont pas bonnes. Mm-hmm. Maintenant, on peut faire aussi des chasses d'eau à 6 litres. Donc là, tout change, si vous voulez. Tout se discute. Le problème des toilettes sèches, il faut bien voir que ce serait très utile dans un certain nombre de pays comme l'Inde, mais là, on se heurte au rapport aux déchets humains des sociétés du tiers-monde, alors que les Chinois, par exemple, ont aucun problème pour trier ces déchets humains et les réutiliser. Les Indiens, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi il y a la moitié des Indiens encore qui n'ont pas de toilettes du tout.
Bernard Barraquet, directeur de recherche au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Marie-Lys Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau, dont on saura tout si on va sur le site internet, tout savoir sur l'eau et la situation actuelle des ressources en eau en France.
On a parlé d'empreinte eau. Il y a un très bon bouquin en français sur la notion d'empreinte eau. C'est le livre de Daniel Zimmer aux éditions Pour le progrès de l'homme. Vous savez, voilà.
Parfait, merci.
Dernière petite chose, buvez de l'eau. L'eau du robinet n'est pas chère, elle est de très bonne qualité. Continuez à en boire.